Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée dimanche 28 novembre, notamment par la prière mariale de l'Angelus du pape François. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira en Algérie, au Burkina Faso et en République démocratique du Congo, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Lors de la prière mariale de l'Angélus en ce premier dimanche de préparation à Noël, dimanche 28 novembre, le pape François a délivré une forte catéchèse sur l'indispensable éveil de l'âme grâce à la prière pour lutter contre le premier des ennemis spirituels, l'acédie. Ainsi, rester éveillé et prier en tout temps a exhorté le Saint-Père. Delphine Allaire nous en parle.
Malgré les crises de la vie et drames de l'histoire, c'est au moment où tout semble fini que Dieu vient nous sauver, à commencer par rappeler le pape. Il ne faut donc pas avoir peur, mais se redresser et relever la tête, car Dieu viendra, a-t-il encouragé. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse, restez éveillé, priez en tout temps.
Vigilare significa questo. Non permettere che il cuore si impigrisca e che la vita spirituale si ammorbidisca nella mediocrità.
La vigilance signifie ceci: ne permettez pas à votre cœur de devenir paresseux, ni à votre vie spirituelle de se ramollir dans la médiocrité, a affirmé le successeur de Pierre, mettant soigneusement en garde contre les chrétiens endormis. Nous le savons qu'il y en a beaucoup, des chrétiens anesthésiés par les mondanités, a-t-il regretté. Sans élan spirituel, sans ardeur dans la prière, cela conduit à la somnolence, l'inertie, l'apathie, l'habitude, le fauteuil de la paresse, une vie triste, en somme, sans bonheur, soupire le pape. La cédie est tout cela en même temps, elle est cette paresse qui plonge dans la tristesse, elle est un esprit maléfique qui enferme l'âme dans la torpeur, la privant de joie. Un remède est avancé par le pape, la prière. Elle est la lampe du cœur, elle réveille l'âme du sommeil et la concentre sur ce qui compte, sur le but de l'existence. Même dans les journées les plus chargées, ne négligeons pas la prière, a enfin souhaité le souverain pontife.
À présent, la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Commençons cette rétrospective avec le Sénégal, où notre correspondant local nous avait rendu compte de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse dans le diocèse de Thiès.
Les journées mondiales de la jeunesse ont été célébrées dans le diocèse de Thiès dimanche 21 novembre, solennité du Christ roi de l'univers. La messe a été présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur André Gay, sur le territoire de la paroisse Sainte-Croix de Bambé. Il a exhorté les jeunes à se lever.
Détoile signifie aussi et confiance en Jésus. Et confiance à toi-même, à tes ressources, à tes talents, à tes capacités. Défends-toi et refuse de te laisser abattre. Parfois, il vous manque la force de la décision. Parfois, vous avez peur de choisir, de prendre le risque, de vous engager.
Cette célébration a connu la participation de plusieurs autorités administratives, militaires et politiques, dont le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, Monsieur Dame Diop. À cette célébration, le président de la Coordination diocésaine des jeunes, Monsieur Fidel Shanghai, a donné lecture des recommandations du Forum préparatoire des JMJ.
Assainir le regard porté sur l'autre et accepter la différence irréductible. Développer la culture de rencontres fraternelles entre jeunes de religions différentes. Mettre en place des comités de dialogue et de veille en milieu scolaire et universitaire. Créer une chaîne YouTube dialogale et cultiver l'esprit de tolérance dans les réseaux sociaux.
Clément Arwandinou, Dakar, pour Radio Vatican.
Au Bénin, un colloque a été organisé pour commémorer le 10e anniversaire de la signature de l'exhortation apostolique post-synodale Africemunus du pape Benoît XVI, ainsi que des 170 ans d'évangélisation.
Le colloque initié par les évêques de la conférence épiscopale du Bénin dans le double cadre de la célébration des 160 ans d'évangélisation continue du Bénin et du 10e anniversaire de la signature par le pape Benoît XVI dans leur pays de l'exhortation apostolique post-synodale Afrique Témounousse a connu son épilogue le vendredi 19 novembre 2021 à la place Monseigneur Stemmes du Grand Séminaire Saint-Gall de Ouida. L'Église de Dieu au Bénin, 160 ans d'évangélisation. Quelle foi ou quel peuple? Les principaux atouts et défis pour une véritable incarnation de l'Évangile au regard de Afrique Témounousse. Près de 300 participants ont été mobilisés par les organisateurs autour de ce thème du colloque monnayé en plusieurs sous-thèmes, développé par des communicateurs avertis, débattu par des participants enthousiastes et discuté en carrefour assorti de plusieurs recommandations. La rencontre s'est déroulée sous les yeux de quatre évêques de la conférence épiscopale, dont le président Monsieur Victor Agbanou qui a ouvert et clôturé le colloque, son secrétaire général Monsieur Aristide Gonzalo qui a prononcé la conférence inaugurale, Monsieur Clé Feliho de Kandi et Monsieur François Longosou de Tassasoumé. En attendant la lecture des recommandations du colloque au cœur de la messe de clôture du jubilé, le samedi 20 novembre 2021 à la basilique de Ouida, un avant-goût nous en a été donné par le rapporteur général de paix Mathieu Haïfan.
Nous voulons une église qui encourage les chrétiens à s'engager en politique, engager résolument pour les pauvres.
Guy Dosunovo, Cotonou pour Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, les évêques, membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale, ont été reçus par le président de la République, M. Félix Tshisekedi.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le vendredi 26 novembre les membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Le nonce apostolique, Mgr Ettore Balestrero, a accompagné les évêques qui avaient clôturé le jeudi 25 novembre une rencontre extraordinaire portant notamment sur l'éducation chrétienne et sur la collaboration entre l'Église et l'État, s'agissant par exemple du processus électoral. Le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, est optimiste sur cette collaboration.
Nous avons d'autres éléments de ce processus électoral qui nous engagent. L'Église, l'État et d'autres partenaires, comme par exemple l'éducation civique et électorale. Il y a aussi la mission d'observation électorale qui viendra, mais il ne faut pas attendre 2023 pour en parler. Ce mécanisme doit être déclenché dès aujourd'hui. Donc ce sont là les points autour desquels nous pouvons fédérer, mutualiser nos forces pour aller de l'avant afin d'atteindre cet objectif qui consiste à assurer le bien-être du peuple congolais et à choisir des personnes idoines qui seront à mesure de répondre aux différents problèmes du peuple congolais.
Jean-Baptiste Malingue Kalunzu pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, les évêques ont tenu du 23 au 25 novembre leur premier conseil permanent de l'année pastorale 2021-2022 à leur siège à Abidjan-Cocody. Notre correspondant nous en avait fait l'écho.
Ce premier conseil permanent de l'année pastorale 2021-2022 des évêques ivoiriens sera l'occasion pour les prélats siégeants au sein de cet organe de passer en revue l'état d'avancement de la lettre pastorale sur l'éducation, l'affiliation des grands séminaires à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Bien évidemment, cette question d'actualité, le synode des évêques dont la phase diocésaine a démarré depuis le 17 octobre dernier. L'autre point majeur au cœur de ce conseil, c'est la préparation de l'ordre du jour de leur prochaine assemblée plénière, la 120e qui se tiendra du 24 au 30 janvier 2022 dans l'archidiocèse de Gagnoua. Mais bien avant, les archevêques et évêques ivoiriens auront du 6 au 11 décembre prochain leur traditionnelle retraite spirituelle du temps de l'Avent au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bergerville dans l'archidiocèse d'Abidjan. Retraite lors de laquelle ils examineront à partir d'une note contextuelle demandée par le président de la conférence épiscopale au secrétariat exécutif national de la commission épiscopale pour la liturgie et les chants sacrés sur la nouvelle traduction du missel romain, puis décideront ensemble d'une date pour l'entrée en vigueur de la nouvelle traduction dans leur diocèse respectif afin de se conformer à la volonté de l'Église de faire évoluer le langage de sa prière en ajustant les gestes et les formules qui permettent la participation de tous, a fait savoir Mgr Ignace Bessi dans une correspondance adressée récemment à ses pairs dans l'épiscopat. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Direction Togo pour parler du traditionnel pèlerinage diocésain au sanctuaire marial de Pimé-Séva, organisé samedi 20 novembre.
Le traditionnel pèlerinage diocésain de Palimé au sanctuaire marial de Pimé-Séva s'est effectué cette année par doyenné, ce samedi 21 novembre, afin d'éviter le rassemblement d'une trop grande foule en cette période de pandémie à coronavirus. C'est ainsi que les deux doyennés de Palimé Ouest et Palimé Est se sont rassemblés à l'école primaire catholique de Kusuntu, le doyenné d'Agou au collège Saint-Jean-Baptiste, le doyenné d'Adeta à la grotte mariale de Konda, le doyenné de Notier chez les missionnaires de Jésus et de Marie à Abala, le doyenné de Ton sur la paroisse et le doyenné de Dany à l'abbaye bénédictine de Zobégan. Dans la ville épiscopale où Mgr Benoît Alono, évêque du diocèse, a lui-même présidé l'Eucharistie, les pèlerins ont prié pour l'événement, pour le diocèse et pour que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Confiance, protège tous de la maladie et de tout danger. Enfants, jeunes, adultes et même des personnes âgées, le chapelet pieusement en main ont prié avec ferveur. L'accueil solennel de l'icône de la Vierge Marie avec une prière faite par deux enfants, puis l'exécution de l'hymne marial en l'honneur de Notre-Dame de la Confiance a été un des moments mémorables de cette journée. Au terme de ce pèlerinage, Mgr Benoît Alono a annoncé le thème de cette année pastorale, à savoir « Accueillons la parole du Christ, devenons ses amis ». Gustave Wam, Dakon pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le président Félix Tshisekedi a autorisé l'armée ougandaise à traverser la frontière pour combattre des rebelles du groupe Force démocratique alliée, responsable de massacres dans l'est de la République démocratique du Congo et d'attaques en Ouganda, a-t-on appris dimanche auprès de la présidence congolaise. Le président Tshisekedi a déjà levé l'option d'autoriser aux troupes ougandaises l'entrée sur le territoire congolais pour traquer les terroristes avec l'armée et les casques bleus, a déclaré un conseiller de la présidence congolaise. Mais les troupes ougandaises ne vont pas traverser la frontière dès ce soir ou demain. Il faut que toutes les procédures soient respectées, notamment au niveau du Parlement et du commandement des forces armées de la République démocratique du Congo, a-t-il expliqué. La participation aux élections locales en Algérie samedi a été plus forte qu'au précédent scrutin, gagnant 12 points par rapport aux législatives à environ 35%, mais elle est restée en deçà des espérances selon les médias algériens dimanche. Le président de l'autorité électorale indépendante Mohamed Chafri a annoncé une participation de 35,97% pour les municipales et 34,39% pour les départementales, avec à chaque fois plus de 8 millions de votants sur 23 millions d'inscrits. Les résultats ne sont pas attendus avant plusieurs jours. L'armée soudanaise a annoncé samedi la mort de plusieurs de ses soldats dans une attaque des forces éthiopiennes dans la région disputée d'Al-Fashaga. Les soldats soudanais, après avoir repoussé l'attaque, ont essuyé d'importantes pertes humaines et matérielles. Plusieurs personnes, dont un enfant et deux journalistes, ont été blessées samedi dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, lors d'incidents qui ont éclaté après la dispersion de centaines de manifestants dénonçant l'incapacité du pouvoir à contrer la violence djihadiste qui ravage le pays. Dans la matinée, les policiers anti-émeutes ont tiré du gaz lacrymogène pour empêcher les manifestants de se rassembler place de la Nation dans le centre de la capitale burkinabé, quadrillé par un important dispositif de sécurité où tous les commerces étaient fermés. Après cette dispersion musclée, des jeunes ont dressé des barricades de fortune et brûlé des pneus dans plusieurs quartiers de la capitale. Des manifestants ont également vandalisé une partie de la direction de l'état civil après avoir tenté d'incendier le bâtiment de la mairie de Ouagadougou dont le maire avait interdit les manifestations.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Un convoi militaire français se renda à Gao, au Mali, déjà bloqué plusieurs jours par des manifestations au Burkina Faso, a de nouveau été pris à partir samedi à Téra, dans l'ouest nigérien, où des heurts ont fait deux morts, selon le gouvernement nigérien. Le père jésuite Martin Baati continue de nous présenter le document du magistère du pape François, Fratelli Tutti.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui dans la lecture méditative de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale, nous entamons la lecture du sixième chapitre de l'encyclique. Ce chapitre est intitulé « Dialogue et amitié sociale ». Il est composé de quatre points, à savoir 1. Le dialogue social pour une nouvelle culture. 2. Le fondement des consensus. 3. Une culture nouvelle. Et 4. Retrouver la bienveillance. Selon l'encyclique, se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact, tout cela se résume dans le verbe dialoguer. Pour nous rencontrer et nous entraider, continuent les documents, nous avons besoin de dialoguer. Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il suffit d'imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de tant de personnes généreuses qui ont maintenu unies familles et communautés. Selon le pape François, le dialogue persévérant et courageux ne fait pas la une comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer. Parlant du premier point, le dialogue social pour une nouvelle culture, le pontife montre que certains essaient de fuir la réalité en se réfugiant dans leur monde à part. D'autres l'affrontent en se servant de la violence destructrice. Cependant, entre l'indifférence égoïste et la protestation violente, il y a une option toujours possible, le dialogue. Et le pape de continuer, le dialogue entre les générations, le dialogue dans le peuple, car tous nous sommes peuple, la capacité de donner et de recevoir en demeurant ouvert à la vérité. Un pays grandit quand dialogue de façon constructive ses diverses richesses culturelles. La culture populaire, la culture universitaire, la culture des jeunes, la culture artistique et technologique, etc., etc. L'encyclique Fratelli Tutti trouve qu'on confond généralement le dialogue avec quelque chose de très différent. Un échange fébrile d'opinions sur les réseaux sociaux, très souvent orienté par des informations provenant des médias pas toujours fiables. Selon le pape, ce ne sont que des monologues parallèles qui s'imposent peut-être à l'attention des autres plutôt en raison de leur ton élevé et agressif. Mais les monologues n'engagent personne, au point que leurs contenus sont souvent opportunistes et contradictoires. Le pape François constate que le manque de dialogue implique que personne, dans les différents secteurs, ne se soucie de promouvoir le bien commun. Mais chacun veut obtenir des avantages que donne le pouvoir, ou dans le meilleur des cas, imposer une façon de penser. Les dialogues deviennent ainsi des simples négociations pour que chacun puisse conquérir la totalité du pouvoir et le plus de profit possible en dehors d'une quête commune générale bien commun. Les héros de l'avenir, dit le pape, seront ceux qui sauront rompre cette logique malsaine et décideront de défendre avec respect un langage chargé de vérité au-delà des avantages personnels. Plaise à Dieu que ce héros soit en gestation dans le silence au cœur de nos sociétés.
Le magazine sur l'engagement de la femme au sein de l'Église et dans la société concerne la campagne lancée par l'Union africaine dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a abrité le 25 novembre la première conférence des chefs d'État et de gouvernement pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Pour l'Union africaine, le forum a été l'instant indiqué pour scruter de fond en comble les causes qui conduisent aux violences faites aux femmes et aux filles en vue d'atteindre l'élimination de ce fléau à travers des actions et des stratégies concrètes. Autour du président de l'Union africaine, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, 6 chefs d'État ont rehaussé de leur présence ce forum où il a été essentiellement question de mobiliser l'engagement et de galvaniser l'action des dirigeants pour accélérer la prévention et l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique. Le combat poursuivi est d'éradiquer ce fléau dans toutes les sphères et à tous les niveaux à travers la promotion de la masculinité positive. Les présidents Macky Sall du Sénégal, Paul Kagame du Rwanda, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Nana Akufo-Addo du Ghana et Faure Gnassingbé du Togo ont pris une part active à cette activité de l'Union africaine en partenariat avec l'African Women Leaders Network. La conférence qui prône un changement de paradigme à travers la vulgarisation et l'appropriation du concept « masculinité positive » promeut un militantisme d'hommes favorables et attentifs à l'abolition des attitudes et comportements inégalitaires qui perpétuent les stéréotypes aujourd'hui érigés en obstacle majeur à l'élimination et à la prévention des violences contre les femmes et les filles avec un impact intergénérationnel certain. Les assises de Kinshasa se sont clôturées par l'adoption d'une déclaration finale en guise d'engagement des hommes et particulièrement des illustres participants contenant des stratégies devant mener aux actions concrètes afin de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Les participants au forum ont lancé une campagne de masculinité positive et se sont engagés à lutter contre les discriminations et les violences contre les femmes et les filles dans leur pays, à veiller à ce que les politiques et les mesures nécessaires soient mises en place par les États pour s'attaquer fermement à toute forme d'impunité, à mettre en œuvre une politique de tolérance zéro à l'égard de ces violences dans les situations de conflit et de post-conflit. Les violences contre les femmes se caractérisent notamment par le viol dans les zones de conflit, le mariage, les grossesses précoces, les mutilations génitales, l'accès limité à la terre. La parole à Christian Combé pour la revue de la presse catholique africaine.
Monseigneur Bienvenu Manamika a pris possession canonique du siège métropolitain. C'est ce qu'a titré la Semaine africaine dans les colonnes de son édition du mercredi 24 novembre 2021. Nommé le 18 avril 2020 comme archevêque coadjuteur de Brazzaville avec droit de succession, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafoua Kouaou est désormais archevêque métropolitain de Brazzaville. Il a été installé dans ses fonctions dimanche 21 novembre 2021 en la solennité du Christ roi de l'univers au cours d'une messe au stade Félix Eboué en présence du chef de l'État, précise l'hebdomadaire congolais. Sixième archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika, avec ses 8 ans d'épiscopat et ses 28 ans de sacerdoce, est désormais le 5e archevêque congolais de Brazzaville et le pasteur propre de l'église de Brazzaville, conformément à la volonté de l'église et du Saint-Père, le pape François, écrit l'hebdomadaire congolais. Un jubilé clôturé avec désengagement. C'est ce que titrait la Croix du Bénin dans les colonnes de son édition du vendredi 26 novembre. Du 17 au 20 novembre 2021, note l'hebdomadaire, la conférence épiscopale du Bénin a organisé les festivités des 160 ans d'évangélisation continue au Bénin, cumulées avec les 10 ans de l'exhortation apostolique Africae Munus, signée à Ouidah par le pape Benoît XVI. Prud'homme de prière, colloque et grand-messe à la basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouidah ont été les dernières étapes de la célébration. La messe pontificale de clôture a été présidée par Mgr Victor Agbanou, président de la conférence épiscopale du Bénin, aux côtés des 7 évêques et d'une centaine de prêtres, a noté l'hebdomadaire béninois. Les chefs religieux du Sud-Soudan soutiennent la décision des procureurs d'inculper une entreprise pour avoir contribué à des crimes de guerre, pouvait-on lire vendredi 26 novembre dans la online newsletter de la MECEA, l'association des membres de conférences épiscopales d'Afrique de l'Est. Les membres du Conseil des Églises du Sud-Soudan ont soutenu la décision du ministère public suédois d'inculper la compagnie pétrolière London Energy pour avoir aidé et encouragé les crimes de guerre commis dans la plus jeune nation du monde, lit-on dans le portail de la MECEA. Il est encourageant de savoir que les autorités suédoises ont décidé de demander des comptes à la compagnie pétrolière pour le rôle qu'elle a joué pendant la guerre civile, ont déclaré les chefs d'église dans leur déclaration collective, signée entre autres par le vice-président du Conseil, l'archevêque Stéphane Ameyou de l'archidiocèse catholique de Djouba, et par le secrétaire général du Conseil des Églises du Sud-Soudan, M. Goran Khan. Ils ont assuré à la population du Sud-Soudan que les églises continueront à défendre fermement les victimes de l'exploitation pétrolière, car les victimes d'abus dans les villages et les maisons autour des champs pétroliers ont le droit d'accéder à un recours et à une réparation.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.